Bonsoir. Dans une conférence de presse organisée mardi dernier à Kinshasa, le réseau national des ONG des droits de l'homme en RDC, RENADOC, affirme que moins d'un pour cent de la population kinoise accède à l'électricité et 83% des citoyens n'ont plus d'eau potable. Par conséquent, le RENADOC demande la démission des comités de gestion de la SNEL et de la Régie des eaux, faute de n'avoir pas rempli leur mission. Quelle analyse faire de la déclaration du RENADOC et que faire pour améliorer la desserte en eau et en électricité en RDC? Pour en parler, nous recevons Fernandez Mourola, secrétaire exécutif national du RENADOC. Monsieur Mourola, bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieur Victor Kendi, ingénieur en génie civil, expert en hydroélectricité, ponts et chaussées. Ingénieur Kendi, vous êtes en ligne? Non, la réalisation me signale qu'il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Emmanuel Kabongo, vous êtes docteur en philosophie et analyste politique. Bonsoir, docteur Emmanuel Kabongo.
Bonsoir.
Merci à vous, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Abbé Jérôme Baye de Wamba en province orientale, le processus de faire accéder un grand nombre des Congolais à l'eau et à l'électricité dépend de la volonté des gouvernants. Les agents de la SNEL et de la Régie des eaux sont plus des exécutants que des décideurs. Kabulo de Lubumbashi au Katanga. Le RENADOC a pleinement raison de demander la démission des comités de gestion de la SNEL et de la Régie des eaux. Si jusque-là on est à 1% seulement pour la capitale, quand est-ce que le Congo profond sera servi en eau et électricité? La solution, c'est de privatiser ces deux entreprises. Merci à vous d'être des millions à nous suivre partout au monde grâce à notre site internet radiocapi.net.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le réseau national des ONG des droits de l'homme, RENADOC, invite le gouvernement à donner l'eau et l'électricité à la population congolaise. Dans une conférence de presse qu'il a organisée ce mardi dernier à son siège, le RENADOC affirme que moins d'un pour cent de la population kinoise accède à l'électricité et 83% des citoyens n'ont plus d'eau potable. Délestage, coupures intempestives et pénurie d'eau sont devenus les lots quotidiens de la petite minorité congolaise, déclare le réseau. Consterné, il somme les comités de gestion de la SNEL et de la Régie des eaux à démissionner, faute de n'avoir pas rempli leur mission. Il décide de mettre en place des comités locaux de surveillance sur la desserte en eau et en électricité. On écoute le secrétaire exécutif national du RENADOC, Fernandez Mourola, au micro de Jeff Ngoy.
Un pays avec des potentialités énergétiques inimaginables, il est inacceptable et même inconcevable que notre population continue à vivre dans un calvaire comme celui auquel il est actuellement assujetti. Nous avons demandé au comité de gestion de faire face à ces défis ou, le cas échéant, à rendre l'établi s'ils sont incapables de régler cette question. Nous avons également demandé à tous les abonnés de la SNEL et la Régie des eaux de s'organiser en comité local de surveillance et après chaque trimestre, ils font un rapport à ces deux entreprises tout en réservant copie au RENADOC pour que nous puissions commencer à suivre cette question de très près. Et nous avions demandé au gouvernement, au président de la République de mettre en œuvre pour que l'eau et l'électricité puissent devenir la priorité des priorités de l'action gouvernementale. Et entre-temps, nous allons mettre en place une commission d'enquête nationale qui va examiner de fond en comble pourquoi la SNEL et la Régie des eaux ne font pas leur travail comme il se doit, pourquoi il y a toujours des contre-performances.
Voilà, notez que d'après le rapport national des progrès des objectifs du millénaire, la pluviométrie est abondante en RDC, avec une alternance entre le nord et le sud, soit entre 800 et 1800 mm. La saison des pluies dure en moyenne 8 mois sur l'année contre 4 mois en moyenne de saison sèche. L'hydrographie de la RDC est dominée par le bassin du Congo, ce fleuve long de 4670 km, avec un débit de 30 000 m3. Seconde à l'embouchure, deuxième débit le plus important du monde. Il y a lieu de mentionner l'existence de 15 lacs qui totalisent plus de 180 000 km². Fernandez Mourola, vous êtes secrétaire exécutif national du RENADOC. Quelle est l'opportunité de la déclaration que vous avez faite?
Oui, merci beaucoup. En passant, je salue tous les auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment. En fait, nous observons la problématique depuis plusieurs années. Nous sommes rendus compte que c'est une problématique qui évolue en s'aggravant. et qu'il n'y a pas de politique sectorielle au niveau de notre pays qui sous-tende l'amélioration de la tragédie, si pas l'amélioration de la question qui nous réunit ce soir. Et puis nous nous sommes dit qu'il était quand même grand temps que nous puissions interpeller les dirigeants de la SNEL, les dirigeants de la Régie des Eaux, les autorités publiques de notre pays, pour qu'ils assument désormais les responsabilités. Parce qu'ils ont, en fait, vous savez, les ONG congolaises des droits de l'homme, depuis un certain temps, et dans leur marche opérationnelle, ils ont eu toujours à mettre suffisamment de temps sur les droits civils et politiques, et on oubliait parfois les droits socio-économiques. Nous sommes dit désormais les droits socio-économiques devront être traités de la même manière que les droits civils et politiques, pour que les dirigeants qui ont la lourde responsabilité d'apporter des solutions aux problèmes contemporains auxquels nos populations sont astreintes, prennent les choses à main et qu'ils s'assument au regard des défis multiples et multiformes auxquels notre pays et à Sigeti.
Voilà. Avant de poursuivre, je voudrais signaler que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministère des Ressources hydrauliques et électricité sont restés vains. Donc, comprenez qu'il y a des questions qui ne trouveront pas leur réponse dans cette émission. Fernandez Mourola, il y a des auditeurs qui ne sont peut-être pas tout à fait d'accord avec votre démarche. C'est le cas de Marco Mouyaya qui nous écrit de Lubumbashi au Katanga qui dit, en supposant que la ville de Kinshasa compte 10 millions d'habitants, c'est-à-dire que seules 10 000 personnes ont accès à l'électricité, mais ce n'est même pas la population d'un quartier. Quel citoyen censé est prêt à gober de telles affirmations? On fait de la critique, oui, mais la rationnelle, celle-là est partisane, irrationnelle et totalement à côté de l'objectivité. Non, les membres du RENADOC ont un problème, un gros problème, à moins qu'ils aient une autre définition de l'accès à l'électricité. En attendant, cette analyse ne vaut pas un penny, Fernandez Mourola.
Oui, en fait, si vous avez bien suivi notre déclaration, nous avons parlé de plus ou moins 1% de la population congolaise et non pas de la population kinoise. C'est en fait, si nous faisons la moyenne générale, il y a des provinces entières qui n'ont pas accès à l'électricité dans ces pays. Et il y a des pays où il n'y a jamais eu, des provinces où il n'y a jamais eu quand vous évaluez la croissance démographique de nos différentes villes, et je vous assure que la majorité de nos populations ne sont pas dans les milieux urbanisés, ils sont dans les milieux ruraux. Et tous ces milieux ruraux de notre pays n'ont pas accès au courant. Quand vous arrivez même à Kinshasa, Kinshasa n'est pas éclairé. Kinshasa n'est pas éclairé. Combien de gens ont accès au courant dans cette ville de Kinshasa? Personne. Si nous intégrons la problématique de l'eau, beaucoup de gens n'ont pas accès à l'eau. Il suffit seulement d'aller même au palais de la nation. Au palais de la nation, vous allez trouver qu'il y a les forages d'eau. C'est pour vous dire que quand il n'y a pas de l'eau, on prend de l'eau privée, de l'eau qui vient du sous-sol, et on se le met là-bas. Et la crainte pour nous, c'est que pourquoi nous devons continuer sur ce plan-là. Et il y a 4 ans, 5 ans, l'accès, le pourcentage était de plus ou moins 6%. Mais c'est comme si, depuis lors, beaucoup de gens ont beaucoup davantage manque de courant, manque de l'eau, qui a eu 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc la situation n'est pas bien améliorée. Et au niveau du gouvernement, qu'on nous prouve quelle est la politique sectorielle qui a été mise en place pour aider les Congolais à aller de l'avant. Pourquoi on doit exporter du courant à l'extérieur du pays lorsque les Congolais n'en ont pas? Et lorsque le courant est exporté, lorsque les pays étrangers payent les courants, ça va où? La SNEL et la Régie des Eaux, bien sûr, ont des problèmes institutionnels ou structurels, d'accord, mais il y a aussi d'autres problèmes parce que tout simplement, les fonds qu'ils génèrent n'arrivent pas aux caisses de la SNEL pour accroître la performance opérationnelle de ces entreprises. Parce que comme vous le savez, par exemple, si nous prenons l'exemple de la SNEL, la SNEL s'occupe de la production, du transport, de la distribution et de la commercialisation de l'énergie électrique en RDC. Mais cette société rencontre des problèmes relatifs à son fonctionnement, notamment l'insuffisance des ressources financières et techniques. Alors que ce sont des sociétés qui ne peuvent jamais manquer les moyens pour promouvoir leur développement institutionnel.
Alors, en 2009 a commencé la réforme des entreprises publiques. Fernandez Mourola, la SNEL, la Régie des Eaux sont devenues aujourd'hui des entreprises commerciales. Et donc, d'après le RENADOC, malgré ça, la situation va de mal en pis.
Oui, c'est-à-dire que malgré la réforme des entreprises publiques, malgré le fait que ces entreprises publiques sont devenues commerciales, malgré tous les changements des membres du comité de gestion de ces entreprises, il n'y a pas d'amélioration. Donc il y a un sérieux problème qui se pose au niveau de la gouvernance globale des entreprises publiques dans notre pays. Et je pense qu'il est important que ceux qui ont la gestion de la puissance publique puissent intérioriser cette préoccupation et voir comment rebondir les angles pour que quand même les populations congolaises qui sont aujourd'hui abandonnées à leur triste sort dans plusieurs de leurs domaines vitaux puissent quand même avoir droit ne fût-ce qu'à l'eau et à l'électricité. Je vous rappelle en passant que l'eau, si je prends l'exemple de l'eau est devenue ce qu'on appelle un droit fondamental consacré par les Nations Unies depuis 2010. Donc il est important que les autorités congolaises intériorisent cette dimension.
Ingénieur Victor Kendi, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes ingénieur en génie civil, expert en hydroélectricité, ponts et chaussées. J'ai sous les yeux le programme d'action du gouvernement 2012-2016 présenté par le Premier ministre Matata Ponyo à l'époque. Il dit ceci, je vais citer un extrait. L'insuffisance de l'offre énergétique constitue l'une des plus grandes contraintes au développement économique et industriel en RDC. De nombreuses études montrent en effet que plus ou moins 40% des capacités industrielles installées de la RDC sont sous-utilisées par manque d'énergie électrique. Pourtant, le potentiel hydroélectrique congolais est estimé à 100 000 MW, soit 13% du potentiel mondial et 37% du potentiel africain, dont 44 000 MW concentrés au niveau du seul site d'Inga. D'après vous, ingénieur Kenzi, comment vous analysez cette problématique que relève le RENADOC?
Merci bien. Le diagnostic du Premier ministre est exact. C'est de matérialiser ce diagnostic-là. Le RENADOC, la préoccupation de RENADOC sur cette préoccupation est fondée, mais peut-être la...
Ingénieur Kenzi?
Régie des eaux et la SNEL sont des entreprises étatiques qui relèvent de la tutelle du ministère des Ressources hydrauliques et électriques. Je crois que c'est à l'autorité de ce ministère de décider qui doit être mise en œuvre par la Régie des eaux et la SNEL. Ça, c'est le premier.
Ingénieur Kindi.
Performance. Oui.
Nous avons quelques difficultés à vous capter. Votre ligne a tendance à se couper. Si c'est possible de vous déplacer un tout petit peu de l'endroit où vous êtes pour que nous puissions mieux vous capter.
Ok. Maintenant, ça va?
Allez-y, je vous en prie, on vous comprend mieux.
Ok. Alors, je disais que ces deux entreprises, qui sont des entreprises étatiques, doivent maintenant faire des performances, soumettre le cahier des charges à leur autorité de tutelle pour trouver des moyens s'ils en manquent et s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de la population parce que ce sont des entreprises directement au service de la population. Ce n'est pas le cas. Il y a eu un contrat de performance qui a été signé entre le gouvernement et ces deux entreprises. À l'époque, nous disions que un contrat de performance, très bien, mais c'est la gestion rationnelle de ressources qui répondrait à toutes les contraintes et permettrait à ce qu'il y ait cette performance. Nous sommes à la deuxième année. Si on fait l'évaluation sur cette performance, eh bien, le RENADOC trouve que rien n'est fait. Rien ne s'améliore et rien ne va pas. Et ça, c'est vrai, le constat est celui-là. Mais alors, maintenant, il faut se poser la question. Est-ce à ces deux entreprises de trouver des solutions ou à l'autorité des tutelles? C'est là où se pose le problème.
Alors, ingénieur Kindi, vous avez soulevé le problème de moyens et de la gestion même de ces moyens. À part ces deux problèmes, quels sont les autres problèmes qui minent ces deux entreprises au point de les empêcher de mieux desservir la population?
Il y a eu un problème de gouvernance qui a fait que les projets étaient financés et exécutés. L'État n'est pas en mesure d'aider ou de travailler convenablement. C'est parce que il y a maintenant des machines qui sont vétustes, il y a des câbles qui sont avariés, il y a des turbines, il y a plutôt des cabines et des ne répondent pas. Pourtant, si on fait l'audit d'une dizaine d'années, vous trouverez qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui étaient confiés à la tâche là.
Nous avons
été fait. Pourquoi ça n'a pas été fait? C'est là le problème. Ce qui est pour la SNEL est autant valable aussi pour la Régie des eaux. Mais il faut retenir une chose, que les performances de la Régie des eaux dépendent des performances de la SNEL. Parce que pour que la Régie des eaux travaille convenablement, il lui donne l'énergie électrique nécessaire pour que cette Régie des eaux travaille. Et si déjà la SNEL devient un canard boiteux, dites-vous que la Régie des eaux ne fera jamais de performances à la hauteur qu'on peut les attendre par la population. Voilà le problème. Une mauvaise gestion antérieure, et de ressources qui ont été lapidées et de mensonges qui ont été érigés en projets réalisés.
Alors, il y a également d'autres observateurs, ingénieur Victor Kendi, qui soulève le problème d'après lequel l'État lui-même doit beaucoup d'argent à la SNEL et à la Régie des eaux. En d'autres termes, l'État ne serait pas en train de se faire harakiri, de se tuer lui-même, comme on dit.
Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'État arrive à couper le monopole qu'il avait donné à ces deux entreprises? Bon, il y a eu la loi qui a été présentée devant l'Assemblée. Je ne suis pas informé si elle a été adoptée ou pas. Il faut d'abord, il faut privatiser le secteur. Privatiser le secteur, il faut arriver aussi à la privatisation, soit partielle, surtout partielle de ces entreprises, pour que les nouveaux repreneurs y entrent. Mais il la fois facile lorsqu'on discutait dans cette même émission de cette loi-là pour dire qu'il faut.
Ingénieur Kendi, nous avons quelques difficultés à...
Allô?
Nous avons
Allô?
Quelques difficultés...
Est-ce que ça va, ça s'améliore?
Plutôt non, de temps en temps ça a tendance à se couper, alors on ne capte pas l'entièreté de vos phrases et ça rend un peu difficile la compréhension. Entre temps, si vous pouvez essayer encore de vous déplacer en essayant de parler, espérant que ça va s'améliorer.
Allô?
Allez-y, je vous en prie, vous êtes en ligne.
Ok. Alors, je disais que le monopole qui était accordé à ces entreprises a été un des facteurs défavorisants pour leur émergence et pour leur développement. Quand il y a la loi, pas ces entreprises. Je ne sais pas si elle a été adoptée. Mais bon, et qu'elle est à la deuxième, où elle est à Benal en lecture au Sénat, il faudrait qu'on y arrive, il faudrait que des autres, opérateurs interviennent.
Voilà, décidément, la réalisation va tenter de vous rappeler pour espérant que la qualité de la ligne va s'améliorer. Docteur Emmanuel Kabongo, vous êtes en ligne, vous nous suivez?
Oui, bien sûr.
Alors, ce qui vous concerne, docteur, d'après votre analyse, le problème en desserte en eau et électricité au niveau de la SNEL et de la Régie des eaux, serait-ce un problème d'hommes, un problème de texte, un problème d'institution? À quel niveau vous situez la question?
Alors, merci beaucoup pour l'invitation au débat. Je voulais d'abord saluer Fernandez et son équipe, le Franck Tittendé, qui ont fait un travail merveilleux pour révéler ces chiffres, n'est-ce pas, tragiques d'accès à l'eau et à l'électricité. Je pense que c'est une des fonctions d'une véritable société civile de s'occuper, n'est-ce pas, des droits fondamentaux, des droits élémentaires des peuples. Et je pense que l'eau et l'électricité sont, comme il a dit tout à l'heure, des véritables droits élémentaires d'un peuple. Et que... d'une façon ou d'une autre, je pense qu'aujourd'hui, il est clair que je situe les problèmes au niveau de la politique nationale. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, je voulais dire à l'ingénieur qui a dit qu'on a, justement, on est en train de rendre ces sociétés commerciales, mais personne ne paye ces sociétés, personne, il y a une sorte de, n'est-ce pas, des privatisations en pêche détachée parce que ces entreprises, depuis que Copyref s'en occupe pour les rendre, les privatiser, les commercialiser, personne n'est venu pour les acheter, personne n'est venu pour enfouler leurs caisses parce que ces entreprises, justement, comme on l'a découvert, n'ont pas des bilans fiables, ne produisent pas les instruments de gestion fiables. On ne sait pas quelle est la capitalisation, qu'est-ce que SNEL coûte réellement, qu'est-ce que la Régie des eaux coûte réellement. Parce que les entreprises, depuis une bonne vingtaine d'années, n'ont jamais produit des instruments de gestion moderne. Il n'y a pas de véritable bilan fiable, il n'y a pas de véritable budget, il n'y a pas de véritable capitalisation. Donc, à ce niveau-là, il y a un problème tout à fait de gouvernance générale. Donc, nous sommes dans un pays où les 22 entreprises qui appartiennent à l'État congolais ne sont pas achetables ni vendables parce que ces entreprises sont dans une gestion opaque. Ils ne produisent pas des instruments qui peuvent appeler les capitaux pour les renflouer. Donc, d'un certain point de gouvernance. Ce que je voudrais relever ici, c'est, comme l'a dit tout à l'heure Fernandez, c'est le paradoxe que le Congo a les potentiels mondial et africain le plus élevé en matière d'électricité, même le potentiel qui est installé, si minime soit-il, allô?
Vous êtes en ligne, docteur Emmanuel
oui.
Kabongo.
Oui, même si minime soit-il, est capable de desservir au moins 60% des Congolais, tout en vendant les restes à l'extérieur comme ils le font. Et que en matière d'eau, nous avons notre fleuve considéré, le fleuve Congo considéré comme un réservoir d'eau douce, mondialement reconnu. Et avec les 15 lacs, comme vous avez dit tout à l'heure, donc nous avons des potentialités en matière hydraulique pour servir les Congolais en eau, en électricité. Mais voilà, le problème qui se pose au Congo est que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, tout ce que nous avons eu comme gouvernement, à part le gouvernement de Lumumba, parce qu'à même Mumbu, tu es même arrivé à donner de l'électricité à 12% des Congolais, et maintenant nous sommes venus jusqu'à moins d'1%. Ça signifie qu'il y a une politique nationale. Enfin, une véritable déshumanisation de notre population, parce que le non-accès à l'eau, le non-accès à l'électricité détruisent la dignité d'un peuple. Si vous voyez aujourd'hui les Congolais, dans tous nos quartiers le matin, vous voyez nos femmes, nos enfants aller dans des petites ressources, dans des petites sources d'eau pour aller puiser de l'eau, on y perd du temps, on y perd de l'énergie. Et surtout, on y perd de la dignité. Donc, nous sommes dans un pays où le gouvernement organise une politique nationale pour rendre son peuple indigne de lui-même. Et peut-être que les gens ne tiennent pas compte de ça. Mais les enfants dans notre pays qui n'accèdent pas à l'électricité, et vous venez de le voir, il n'y a moins d'un pour cent des Congolais qui ont l'électricité, ces enfants n'étudient pas bien. Ils ne vont pas bien à l'école. Ils doivent utiliser des lampes tempêtes. Et encore que les pétroles côtières, ça signifie que nous sommes dans une problématique globale d'enrichissement, d'approfondissement du sous-développement. En fait, le sous-développement au Congo aujourd'hui est entretenu par l'État congolais lui-même. Les enfants qui n'accèdent pas à l'électricité ne savent pas faire leurs devoirs, ne savent pas étudier, ou ils étudient mal, n'accèdent pas à la télévision, donc ils sont, cassés du monde extérieur, n'accèdent pas à l'Internet. Donc c'est l'ensemble de toutes ces problématiques qui me font penser qu'aujourd'hui, plus qu'hier, nous avons un gouvernement qui entretient le sous-développement, qui l'enveloppe, qui le développe, et le non-accès à l'eau et à l'électricité, qui sont on n'est même pas, ce ne sont pas des droits fondamentaux, ce sont des droits élémentaires.
Merci.
Quand les gens n'y accèdent pas, ils perdent toute leur dignité, ils perdent la confiance en eux-mêmes. Et aujourd'hui, quand tu vois les peuples congolais dans la rue, hagards, perdus, ne croyez pas que c'est parce qu'ils manquent seulement l'argent. Il manque l'argent parce que le salaire le congolais est le plus microscopique possible. Mais il manque aussi, il a passé toute la nuit à ne pas avoir de l'eau. Il a passé toute la nuit dans les noirs. Et quand il se réveille le matin, c'est quelqu'un de hagard, de perdu. Donc moi je dis, le problème se trouve au niveau d'une organisation gouvernementale de l'État congolais qui gère non pas sa faillite, mais qui gère la faillite de son peuple. C'est-à-dire nous sommes en train de descendre, nous sommes dans un puits, maintenant nous creusons. Pour que nous soyons enterrés vivants.
Merci docteur Emmanuel Kabongo. Rendons-nous à Lubumbashi où les inciviques ont emporté mardi dernier plus de 150 mètres de câbles dans la commune de Katouba. En l'espace de 6 mois, ce sont plus de 20 000 mètres de câbles volés, ce qui constitue un réel manque à gagner car la SNEL, la Société Nationale d'Électricité, a dépensé plus de $200,000 pour y faire face, indique son directeur provincial. Kumbu Ilunga plaide pour l'implication de tous afin de décourager ces actes qui, selon lui, ralentissent les efforts fournis dans l'amélioration de la desserte en énergie électrique au Katanga. Kumbu Ilunga est au micro de Jean Gandou.
À Katouba, on est autour de 5 km, 500 mètres de câbles volés. Rien n'est fait, on n'a pas 10 câbles en stock. Pour votre information, les 5 km et demi de câbles qui ont été volés, c'est plus de $50,000 qu'il faut mobiliser pour acheter des lignes pour encore réalimenter la population. Ça va créer beaucoup de poches noires au niveau de la commune. Dans l'ensemble, c'est le manque à gagner de tout ce que nous avons perdu. C'est autour de $200,000. C'est beaucoup d'argent que nous sommes en train de dépenser pour améliorer la desserte. Et malheureusement, ces actes continuent encore sur le réseau et nous les déplorons. Côté acheté, nous avons perdu plus de 6 portées de câbles. Si vous multipliez ça, ça peut aller au-delà de 3000 mètres. Jusqu'alors, on a déjà dépassé 10 000. Mais si nous devons ajouter ce que nous avons subi il y a 6 mois, donc on a, la SNEL a déjà perdu à peu près 20 km de câbles comme ça. Et nous sommes obligés de faire le surplace parce que lorsqu'on vole, vous devez intervenir pour remplacer. On ne sait pas à ce moment-là développer de nouveaux réseaux.
Voilà, Fernandez Morola, à Lubumbashi, la SNEL a perdu près de 20 km de câbles. Là, nous ne sommes qu'au Katanga. Si on devrait prendre toute la République, on pourrait faire des estimations. Mais il faut dire aussi qu'en dehors de la gestion, la SNEL et la Régie des Eaux sont victimes de ce genre d'actes d'incivisme.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ça s'observe partout. En dehors, à part les Katanga, il y a des actes inciviques contre la SNEL et la Régie des Eaux dans plusieurs coins et recoins de notre pays. Ce sont des faits malheureux, mais il appartient au gouvernement qui a la puissance publique de protéger ses entreprises. Comme j'ai suivi tantôt aussi, on a dit que, vous savez, l'État congolais lui-même doit à la SNEL, par exemple. Environ 40% de son chiffre d'affaires chaque année. Et donc, si l'État congolais arrivait à restituer chaque année 40% du chiffre d'affaires de la SNEL serait à mesure de faire face à ce défi. Mais au-delà de ce que l'État congolais doit à la SNEL, il y a d'autres dimensions que les gens doivent savoir. Nous sommes dans un pays avec un programme quinquennal qui a été adopté et approuvé par notre représentation nationale au Parlement. Et pour ce qui concerne les axes prioritaires, le gouvernement nous avait promis autant de choses. D'abord, le gouvernement nous avait promis de réhabiliter des centrales thermiques et hydrauliques existantes. Le gouvernement avait promis de renforcer des lignes de transport énergétiques existantes. Le gouvernement avait promis de construire des nouvelles lignes et notamment la ligne Inga Katanga et Inga Kinshasa. Il avait également promis de construire ce qu'on appelle des nouvelles centrales hydroélectriques, notamment qu'il s'agisse des Zongo, des Katende, des Kakobola, des Inga, des Bendera, des Ivuga, des Semuliki, des Busanga, des Nzilo, des Kamikamimbi et que sais-je encore. Et tout ça, le gouvernement avait promis dans son programme quinquennal. Mais bientôt, une année après, rien n'a été fait sur ce plan-là. Et ça pose problème. Il y a aussi ce que le gouvernement avait promis, c'est le financement carbone dans le cadre des mécanismes de développement des énergies propres et renouvelables. Sur cet axe-là, rien n'a commencé et donc on est toujours à la case du départ. Et quand vous analysez tous ces aspects, vous dites maintenant, finalement, où est-ce que nous allons? Nous exportons le courant pour quoi et pour qui? Et quand on paye ces factures, on affecte ça, les factures ne rentrent plus à la SNEL ni à la... Ça pose problème.
Alors, je vais prendre deux auditeurs pour vous, Fernandez Morola, Franklin Matumaine qui est à Bukavu Sud, qui vous dit « Le RENADOC pose un problème sérieux et réel, mais il n'a pas étudié le nœud du problème et s'est trompé la cible car la SNEL et la Régie des Eaux ne sont que des organes techniques qui suivent la ligne de conduite du gouvernement. » Maître Francis de Joseph Bonjemba, Lokombe de Kinshasa, lui dit « L'appel du RENADOC est fondé vu la transformation de Kinshasa en ville fantôme, mais il est allé si vite en exigeant la démission des chefs de la SNEL et de la Régie des Eaux, car au Congo, on n'a pas un problème d'hommes, mais plutôt un problème de système. D'où la solution serait la privatisation de ces deux entreprises. Là, il aborde déjà les solutions. Mais quant à demander la démission, comme disent ses auditeurs, n'êtes-vous pas allé vite en besogne à ce niveau-là?
Non, c'est-à-dire que nous n'avons pas demandé, si vous lisez très bien notre déclaration, nous n'avons pas demandé la démission, mais nous avons dit que le comité de gestion de la SNEL et de la Régie des Eaux prouve illico presto au peuple congolais qu'ils sont à même de relever les défis. Sinon, qu'ils rendent les tabliers sans autre forme de procès. Et nous avions dit que malgré qu'il y a eu des changements incessants au niveau des comités de gestion de ces deux entreprises, il n'y a pas eu d'amélioration. Donc nous sommes d'avis qu'il y a réellement un problème systémique, tributaire du fait qu'on n'a pas de politique sectorielle adéquate pour gérer la République. Vous savez que même 50 ans après notre accession à l'indépendance, notre pays est toujours dépourvu d'une politique nationale de développement. Nous n'avons même pas une politique nationale de défense. Nous n'avons même pas une politique nationale énergétique. Nous sommes dépourvus de différentes politiques sectorielles indispensables pour pérenniser l'existence même de l'État-nation République démocratique du Congo.
Alors je vais prendre ce témoignage qui nous vient de Goma en Nord Kivu. C'est Blaise Mukendi qui nous écrit, qui dit: lorsque le gouvernement fait ses bilans, c'est toujours positif. Curieusement, à Goma, avoir l'eau et l'électricité est un luxe. Chaque année, on enregistre toujours des enfants morts dans le lac Kivu parce qu'ils étaient allés chercher de l'eau dans le lac. L'eau est tellement une rareté qu'il y a même un commerce qui s'est développé. L'eau est vendue sur des vélos dans la ville à 100 francs, un bidon de 20 litres. Les enfants mangent bien mais ont des problèmes de croissance car ils sont obligés quelquefois de transporter des bidons d'eau très lourds. Pour ce qui est du courant, c'est encore pire. Les habitants de la ville rwandaise de Gisenyi, qui est en face de Goma, comme Matonge Kasavubu, suivent mieux la télévision nationale que les Gomatraciens. La ville de Goma n'est couverte qu'à hauteur de 10% fourniture d'électricité. Et curieusement, les factures sont établies en dollars américains, pendant qu'on parle de la dédollarisation de l'économie nationale. Nous allons aborder la deuxième partie de cette émission. Que faire pour améliorer la desserte en eau et en électricité? Action après la promesse de subvention de l'État faite par le Premier ministre à la SNEL et à la Régie des Eaux en vue d'améliorer leur desserte en eau et électricité. Cette réaction est du Syndicat national des travailleurs de la Régie des Eaux. Le Sinatreg salue la subvention mais estime que le gouvernement devrait respecter les clauses de contrat de performance auxquelles la Régie des Eaux est assujettie. Dans ce contrat, le gouvernement avait pris l'engagement de payer toutes les consommations des instances officielles. Un engagement qui traîne à se concrétiser. On écoute Jean Bosco Mwaka, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de la Régie des Eaux, au téléphone de Daniel Tambinzoli.
Nous disons merci à son Excellence Monsieur le Premier ministre d'avoir annoncé cette bonne nouvelle d'accorder une subvention à la Régie des Eaux de notre entreprise. Mais cependant, le Premier ministre doit comprendre que la Régie des Eaux est déjà transformée en société commerciale.
Mais l'État reste le seul actionnaire pour l'instant.
Mais cependant, nous voulons rappeler à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que l'État congolais a soumis la Régie des Eaux à un contrat de performance. Mais dans ce contrat, il est stipulé noir sur blanc que l'État congolais s'engage à payer toutes les factures de consommation des instances officielles.
Ce qui n'est pas encore fait jusque-là. Et c'est quoi la taille de ce que l'État doit à la Régie des Eaux?
Pour toute l'année 2012, la Régie des Eaux a facturé à l'État près de 25 millions de dollars. Mais l'État congolais n'avait payé que 1 900 000 dollars. Et au moment où je vous parle, nous n'avons bénéficié que 1 100 000.
Avant de donner la parole à l'ingénieur Victor Kendi, je rappelle que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministère des Ressources hydrauliques et électricité sont restés vains. Ingénieur Victor Kendi, vous êtes ingénieur en génie civil, expert en hydroélectricité, ponts et chaussées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la desserte en eau et en électricité? Là, le Premier ministre, dans sa dernière conférence de presse vendredi dernier, promettait des subventions de l'État à la SNEL et à la Régie des Eaux pour améliorer la desserte. Et vous parliez déjà de la privatisation de ces secteurs.
Oui, il faut nécessairement passer de la parole à l'acte. Le Premier ministre a fait son discours. A-t-il mis maintenant à la disposition de ces entreprises le moyen nécessaire pour qu'ils améliorent leur performance? La question est posée. Il faudrait qu'il y ait la réponse. Et ceux qui vont avoir les moyens, c'est depuis toujours qu'on a décrié leur gestion. Sont-ils en même maintenant d'améliorer leur gouvernance pour que la gestion soit saine et rationnelle afin qu'ils puissent atteindre les performances qui leur sont demandées? Ça, c'est la deuxième question qu'il faut se poser. Voilà, le gouvernement a des réponses à donner. Les sociétés, ces deux sociétés, la Régie des Eaux et la SNEL, ont aussi des réponses à donner et la balle est dans leur camp. J'ai rejoint mes prédécesseurs qui sont intervenus en disant: il faut qu'on définisse une politique nationale de l'énergie. Il faut qu'on définisse de politiques nationales sectorielles qui permettraient de partir d'un point de départ pour un point d'arrivée bien déterminé, ce qui signifie partir du sous-développement de ce secteur vers l'amélioration et le développement. Et c'est ça qui fait cruellement défaut dans notre pays.
Il y a Moses Kitambala qui nous écrit de Goma en Nord Kivu qui dit « Je crois que la démission de ces comités de gestion n'apportera rien comme solution tant que l'injustice et l'impunité ne seront pas abattues. Même ceux qui les remplaceront feront la même chose. Ingénieur Victor Kendi, faut-il mettre l'accent également sur la lutte contre l'impunité dans ces secteurs ?»
Oui. Tous les mots que nous décrions aujourd'hui, je crois... c'est que la plupart sont des conséquences de l'impunité. Il faut des sanctions. Des sanctions positives et des sanctions négatives. S'il n'y a pas de sanctions, là, dites-vous que plus rien ne pourra marcher. Et nous disons que, si on a parlé de la gouvernance, s'il y avait des sanctions négatives qui atteignaient ceux qui étaient coupable de cette mauvaise gouvernance, je crois que les choses s'amélioreraient. Et là, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qui a donné ce point de vue.
Alors, faut-il aussi, ingénieur Kenzi, revoir la réforme des entreprises publiques qui semble avoir posé quelques problèmes dans le fonctionnement de ces entreprises?
Absolument, il faut revoir. Mais il faut aussi un audit. Pourquoi? Parce que nous savons que le gouvernement congolais s'est endetté en faveur de la FNEL et de la régie des eaux sur des projets de développement de ces entreprises. Est-ce que ces projets ont été réellement mis en œuvre? Il faut qu'on nous informe si c'était le cas. Parce que moi, je vous dis, il y a un déphasage entre ce que le gouvernement prétend avoir donné avoir mis à la disposition de la semaine de la régie des eaux et les résultats probants qu'on a sur le terrain.
Merci ingénieur Victor Kendi, ingénieur en génie civil, expert en hydroélectricité, ponts et chaussées. Emmanuel Kabongo, vous êtes docteur en philosophie et analyste politique. Tembera Kairi de Kalemio Katanga dit, je voudrais savoir entre la démission des chefs de la SNEL et de la Régie des Eaux ou la privatisation de ces deux sociétés, quelle serait la meilleure solution? Docteur Emmanuel Kabongo, dans votre analyse, vous parliez déjà d'une privatisation en pièces détachées. Quelle serait la meilleure solution aujourd'hui finalement?
Nous n'avons jamais été en faveur de la privatisation des entreprises publiques. Parce que les entreprises publiques ont pour fonction de prendre en charge les besoins et les attentes d'un peuple. Et nous avons toujours considéré la tentative de privatisation des entreprises publiques comme une sorte de déclaration, une décision prise par l'État congolais de ne pas assurer le développement, de ne pas assurer l'accès du peuple congolais, n'est-ce pas, aux nécessités de la vie moderne. Donc, nous n'avons jamais pensé que cette histoire de privatisation, c'est une politique coloniale qui n'existe nulle part ailleurs, qu'on puisse vendre des entreprises qui prennent en charge les besoins primaires des populations. Donc, je n'ai jamais pensé que ce soit une solution valable. Ce que moi je voudrais dire, je rappelle ici que lors d'une conférence à Fatima, l'ancien premier ministre Mozito nous a dit, au Congo, nous n'avons pas une politique de développement, nous n'avons pas un budget de développement, nous avons un budget de maintien de l'État. Ça signifie qu'aujourd'hui, et je crois que j'ai rejoint cette affirmation tout à l'heure, il n'y a pas au Congo une véritable politique de développement humain, de développement industriel, de développement de la population. Donc l'État aujourd'hui s'est complet à faire un petit budget juste pour maintenir les ministères en marche, pour maintenir quelques routes en marche, mais il n'y a pas une véritable politique de développement. Et je crois que l'État congolais ne fait aucun effort pour rechercher l'argent, pour intégrer la gestion minière, pour intégrer la gestion pétrolière, pour intégrer toutes ces ressources dans l'augmentation. On ne peut pas avoir, dans un pays comme le Congo, avec 80 millions de personnes, avoir un budget de 7 milliards de dollars, dont d'ailleurs, quand on l'exécute, l'année passée, on a eu un budget de 7 milliards. Nous n'avons jamais exécuté 7 milliards, on a exécuté 3 milliards.
Et donc, ça signifie que
l'État s'est complet lui-même à assurer le sous-développement, à assurer la... Donc moi, je pense que la problématique fondamentale aujourd'hui, il faut que notre État, s'il veut être vraiment un État pour les Congolais, qu'on puisse d'abord se charger à chercher l'argent pour faire un budget de développement du Congo. Ce budget n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir 7 milliards de dollars et qu'on exécute 4 ou 3 milliards de dollars pour dire qu'il y a un développement au Congo. C'est impossible. De deux, il n'y a pas de... La privatisation n'a jamais été une solution. Ça n'existe nulle part qu'on puisse prendre les entreprises qui prennent en charge les attentes primaires, les besoins primaires d'une population, donc l'eau, l'électricité, pour dire on va les vendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons discuté, ces entreprises, CopyRep, une instance de la Banque mondiale, qui veut vendre donc toute la politique de la mondialisation ici, personne n'a jamais acheté ces entreprises. Au contraire, on est en train de donner à quelques personnalités, à quelques petites entreprises occidentales, arabes, on dit, merci. Vous allez gérer Cité Verte, vous allez gérer Cité Maman Mobutu, et on se dit, mais ce n'est pas possible. Et les gens là vous installent des trucs, merci. Ils vous demandent beaucoup d'argent, donc ce n'est pas normal. Ça devient une politique tout à fait criminelle pour le sous-développement du Congo. Donc pour moi, j'estime, aujourd'hui, il faut que nous nous mettons dans la tête un pays comme le Congo, le budget minimum de développement, ça c'est un budget qui se situe entre 30 milliards de dollars.
Merci Dr. Emmanuel Kabongo, Fernandez Morola. Vous êtes secrétaire exécutif national du RENADO. Il faut déjà conclure, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Dr. Emmanuel Kabongo lui propose qu'il faut chercher l'argent pour un budget de développement, mais en même temps, dans sa première intervention, il disait que la gestion opaque n'appelle pas les capitaux. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour améliorer la desserte en eau et en électricité?
Oui, en fait, pour améliorer la desserte en eau et en électricité, il est impératif. Premièrement, que l'État congolais paye d'abord toutes ses dettes envers la régie des eaux et la SNEL. Si l'État congolais arrive à payer ses dettes, ça va accroître les capacités opérationnelles de ces deux entreprises. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une transparence. Une transparence dans la gestion quotidienne de ces deux entreprises. Troisièmement, il faut qu'il y ait, qu'on puisse auditer les contrats de performance qui existent entre l'État congolais et les deux entreprises. Parce qu'il ne faut pas que ce soit seulement des lettres mortes, alors qu'en réalité, ceux qui gèrent au quotidien ces deux entreprises ont des devoirs vis-à-vis de l'État, mais également des devoirs vis-à-vis des populations congolaises. Ensuite, il faut absolument mettre des stratégies pour arrêter ce qu'on appelle l'évasion fiscale dans notre pays. Ce pays connaît annuellement l'évasion fiscale d'environ 18 milliards de dollars américains, contre un budget de 6 milliards à 7 milliards qu'on adopte au Parlement, mais dans la réalisation qui arrive toujours à 3 milliards, de 3 à 4 milliards de dollars. C'est inconcevable. J'ai toujours donné l'exemple de Kinshasa, par exemple, sur le plan démographique, c'est le Congo-Brazzaville, le Gabon et la République centrafricaine réunis sur le plan démographique. Mais le budget de Kinshasa n'équivaut pas au budget de ces trois pays réunis. Et la dernière stratégie, il est impératif qu'on procède à des réformes institutionnelles profondes dans tous les secteurs vitaux de la nation.
Merci Fernandez Morola. Ingénieur Victor Kendi, en plus de tout ce que vous avez déjà dit, ne faudrait-il pas également mettre l'accent sur l'éducation civique au niveau de la population?
Exact. Il faut éduquer la population à respecter les biens publics. Il faut éduquer la population à respecter ce qui est mis à sa disposition. Et aussi, il y a un problème. La population aussi doit savoir payer les factures de consommation et d'eau et d'électricité qui leur soient. Nous avons beau dire qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de l'eau, mais par moment, l'eau qu'on reçoit et le courant qu'on a chez soi, on arrive difficilement à le payer.
Merci, ingénieur Victor Kendi. Docteur Emmanuel Kabongo, juste un mot pour conclure.
Oui, je dis que la problématique d'eau, c'est une problématique tout à fait globale. Aujourd'hui, la recrudescence des maladies hydriques, des maladies de peau, de la lèpre, la tuberculose, tout ça, sont des problèmes liés à l'eau. Et je pense que l'État congolais doit devenir vraiment un État pour le Congo. Il doit revenir dans l'humanité, c'est-à-dire mettre ses problèmes au niveau de l'intérêt général.
Merci. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Kevin Kouté, Samuel Kachak, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, à la technique Mimi Kindou et Jean-Claude Ansiala. Présentation et coordination, Alain Hirou Mouchige. Au revoir.